Allô tout le monde, bienvenue au podcast Prends ton pouls. Aujourd'hui, on a reçu Dr. Daniquel Giroux, chiropraticien. En fait, là, je le connais un peu, c'est sûr, j'ai étudié en chiro, comme peut-être vous le savez déjà, je l'ai déjà dit. Mais vraiment intéressant, il a fait la route, quand même un MVP, il a fait la route pour venir nous voir aujourd'hui, puis nous parler de la chiropratique, de la réalité d'un chiropraticien, son quotidien, mais aussi de faire des petites nuances. Tu sais, des fois, on a des mythes en chiropratique, on est comme venu déconstruire ça un peu. Puis je pense que c'était vraiment une discussion super intéressante. Honnêtement, j'ai adoré parler avec lui. J'ai même eu des petits throwbacks, on dirait, dans ma tête. Ça m'a remis dans mon, dans mon ancien programme. Donc voilà, bonne écoute tout le monde.
C'était super intéressant. Tu sais, moi qui connais pas tant la chiro, j'ai vraiment appris des trucs nouveaux. Fait que tu sais, si jamais vous êtes curieux, vous ne savez pas vraiment c'est quoi, puis qu'est-ce qu'ils font réellement, bien, je pense que c'est vraiment un bon épisode. Encore une fois, le podcast est propulsé par Planica, cabinet expert en planification financière pour médecins et étudiants en médecine. Et si jamais vous voulez vous acheter des nouveaux scrubs pour vos petits séjours à l'hôpital, vous pouvez utiliser notre code Prends ton pouls 10 pour 10% de rabais sur votre prochaine commande chez Garde Malade. Bonne écoute!
Bonne écoute! Daniquel.
Bon matin à vous deux, merci de me recevoir.
On est vraiment contente que tu sois là en fait. Pour commencer, parle-nous de toi, parle-nous de ton parcours, qu'est-ce que tu fais?
Absolument, mais je voulais commencer premièrement en vous disant que c'est ma première expérience de podcast, fait que je suis bien content d'être là ce matin. Puis c'est vraiment justement une question que je me suis demandé, tu sais, qui je suis comme personne. En fait, je suis le docteur Daniquel Giroux, chiropraticien. Je pratique dans la magnifique région de Vaudreuil-Dorion. Je suis également, si tout se passe bien, finissant au programme cours de deuxième cycle en chiropratique du sport. Puis, je suis nouvellement administrateur au sein du Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec. Je suis un petit gars de Gatineau. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Je vais de ce coin-là, puis ensuite, j'ai déménagé à Trois-Rivières pour poursuivre mes études en chiropratique. Là, je vous parlerai peut-être un petit peu de mon parcours tout de suite après. Donc, c'est ça. J'ai toujours été passionné de sport. Puis aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je traite la population en général, mais avec une attention particulière aux athlètes puis aux personnes actives, donc des athlètes soit récréatifs, mais aussi des athlètes professionnels puis élites.
OK. Beau parcours.
Oui. Ça a l'air super intéressant. J'ai déjà plein de questions. Comment tu as découvert la chiro?
C'est une super bonne question. En fait, contrairement à plusieurs personnes, puis là, je me rappelle ma première journée d'école à l'université, puis sûrement que c'était la même chose pour vous. Il y a un des professeurs qui se lève puis qui demande à tout le monde c'est quoi qui vous a fait, dans le fond, choisir le programme de chiropratique ou de médecine ou peu importe. Puis là, tout le monde avait à peu près la même histoire, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont jeunes, ils ont été traités par un chiropraticien, ils ont eu une blessure sportive ou quoi que ce soit. Même si j'ai fait pas mal de sport, puis j'ai eu des blessures plus jeunes, mais j'ai jamais rencontré de chiropraticien durant ma jeunesse ou durant mon enfance. Il n'y avait personne dans ma famille qui se faisait traiter en chiropratique. Donc pour moi, je connaissais vraiment pas ça. C'est peut-être une des motivations, des raisons qui m'ont poussé à venir ici ce matin pour parler de la chiro. Donc, je connaissais pas ça. Puis, rendu au cégep, j'étais évidemment en sciences de la nature. Je savais que je voulais avoir une carrière en santé. Donc, ça, c'était clair. Honnêtement, je pense que j'aurais pu aller dans n'importe quel milieu de la santé, n'importe quel domaine, puis que j'aurais été bien. À cette époque-là, je pense que je visais plus la pharmacie. Fait que là, je travaillais fort, je voulais peut-être aller en pharmacie, ça m'intéressait. Puis, ce que j'aimais le plus de la pharmacie, c'était l'aspect des conseils que tu peux donner aux patients. Donc, lorsqu'on va rencontrer le pharmacien, on a juste une question pour le pharmacien, puis qu'en dedans de quelques minutes, il peut avoir comme un impact direct sur ta santé. C'est ça que j'aimais le plus. Fait que là, j'ai travaillé fort, je voulais aller en pharmacie. Jusqu'à temps qu'arrive le temps d'appliquer à l'université dans différents programmes. Puis là, vous vous rappelez sûrement, quand tu appliques dans un programme à l'université, tu as toujours l'option de choisir un deuxième programme pour le même prix puis la même inscription. Tu as comme un choix 1 puis un choix 2. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui m'intéressait aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est le programme de chimie avec un profil criminalistique, un peu comme CSI. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Je savais pas vraiment que je voulais aller là-dedans, mais j'ai décidé d'appliquer dans vraiment plusieurs programmes pour avoir toutes les chances. Puis en deuxième choix, je savais pas quoi mettre. J'étais avec deux de mes amis de Gatineau, Christian, Mélanie, que je salue d'ailleurs. Puis eux, ils m'ont dit, ben écoute, nous, on est certains, on va aller en chiropratique. Ils connaissaient quelqu'un qui était là-dedans dans leur famille. Ils m'ont dit, je pense que tu serais bon là-dedans, t'aimerais ça, c'est un domaine de la santé. Fait que je l'ai mis en deuxième choix, juste comme ça. Puis je me suis dit, ben au pire, je refuserai l'invitation, ça me tente pas d'aller là-dedans parce que je connaissais pas ça.
OK.
Des semaines plus tard, quand on reçoit la fameuse réponse du programme pour dire, écoute, vous avez été convoqué aux entrevues. Parce que là, ça aussi, je pourrais y revenir, mais il y a un processus d'entrevue, il y a un test Casper, il y a plusieurs étapes pour entrer au doctorat en chiropratique. Fait que là, j'ai été, dans le fond, demandé pour aller aux entrevues. J'ai été aux entrevues en me disant, ben, écoute, j'y vais pour l'expérience, je ne veux pas nécessairement aller là-dedans parce que je ne connaissais toujours pas ça à ce moment-là, mais je vais vraiment pour marcher personnellement puis essayer d'en apprendre un peu plus sur cette profession-là. J'arrive aux entrevues complètement décontracté, aucun stress. Puis je pense que ça a joué en ma faveur parce que là, j'arrive là puis j'ai dû bien répondre aux questions puis j'ai dû être naturel le plus possible. C'est vraiment ça. Puis quelques jours plus tard, on m'a appelé pour m'annoncer en fait que j'avais été accepté dans le programme. Plus à ce moment-là que j'ai vraiment considéré la chose. Ça a pris quelques jours, j'ai fait les pour puis les contre. Puis finalement, j'ai décidé d'accepter de me lancer dans cette aventure-là. Puis j'ai pas regardé en arrière depuis
ce temps-là. Oh mon Dieu, mais c'est tellement toi. Par contre, tu dis, j'arrive à l'entrevue, full relax, pas stressé, c'est genre.
Exactement. Mais oui, puis honnêtement, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Puis là, je sais que dans le podcast, on va parler de plein de conseils qu'on peut donner, mais de pas se mettre de pression puis de pas vraiment vouloir quelque chose fait en sorte que tu l'obtiens plus habituellement. En tout cas, parce que t'es plus toi-même. Puis dans un processus d'entrevue, c'est pas vraiment les connaissances qui regardent, c'est beaucoup plus la personnalité puis la motivation. De l'étudiant être là. Fait que c'est mon processus pour devenir chiropraticien. Okay. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert la chiro.
OK, un beau hasard dans le fond. C'est vraiment le fun.
Exactement.
Puis là, ben, je vais te demander la question, c'est quoi la chiropratique? Parce que évidemment, je connais la réponse.
Ouais. Mais... Moi, non.
Ouais, mais c'est ça, c'est le fun. On va comme apprendre. Puis c'est ça, en gros, c'est quoi la chiro?
Absolument. Donc, un peu comme je disais, c'est une profession de la santé qui s'intéresse à le dépistage, en fait, là, tout ce qui est la détection, le diagnostic, le traitement puis la prévention des troubles neuromusculosquelettiques. Donc, tout ce qui est des désordres d'origine neuromusculosquelettique, ça, c'est vraiment notre champ de pratique, notre champ d'expertise. Puis, pour être chiropraticien, il faut faire partie de notre ordre professionnel, l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Donc, ça fait que d'un point de vue légal, notre champ d'expertise, il est assez bien réglementé, il est assez ciblé. Des fois, comment j'aime l'expliquer, c'est un peu, nous, on s'intéresse beaucoup à l'appareil locomoteur. Donc, je sais que vous, par exemple, en médecine, vous fonctionnez beaucoup par système. Mais dans le fond, le système musculo-squelettique, l'appareil locomoteur, c'est vraiment ça que nous, on traite le plus en chiropratique puis qu'on va s'attarder. Mais tout ce qui est la partie de soins, disons, conservateurs. Donc, avant de faire une injection, avant de prescrire un médicament ou avant même de faire une intervention chirurgicale, nous, on s'intéresse à savoir, bon, qu'est-ce que c'est premièrement, donc le diagnostic, puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes-là, le traitement puis la prévention, mais tout ce qui est donc, dans les soins conservateurs. Ça ressemble à ça. Puis, ben, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, par rapport à la profession chiropratique, c'est une profession aussi qui est dite de premier contact. Donc, des fois, c'est important ou c'est pertinent à savoir qu'on n'a pas besoin nécessairement de référence pour aller voir ou consulter un chiropraticien. Vous pouvez vous lever un matin, consulter une clinique de chiropratique qui est près de chez vous, puis avoir un examen en profondeur, avoir un diagnostic neuromusculosquelettique sans avoir de référence, mais on reçoit aussi des références médicales pour certains patients qui auraient été référés pour une condition en particulier.
OK. Puis, tu sais, plus concrètement, c'est quel genre de problématique que vous pouvez, que vous travaillez avec ou que vous traitez?
Oui, encore une fois, super bonne question, puis ça peut aller tellement large. On s'intéresse beaucoup, beaucoup à tout ce qui est les problèmes, donc comme je le dis, dans le neuromusculosquelettique, donc tout ce qui est les problèmes d'articulation, de muscles, de tendons, de ligaments, aussi tout ce qui est les problèmes avec une origine neurologique, si on veut, donc des neuropathies, des engourdissements dans les mains, des engourdissements dans les jambes, ça peut être parfois des atteintes qui sont dites centrales, donc des atteintes un petit peu plus graves, plus sérieuses, qui vont nécessiter à ce moment-là soit l'intervention d'un médecin, d'un neurologue, quoi que ce soit. Mais quand c'est quelque chose qui vient d'un point de vue un petit peu plus périphérique ou qui ont, par exemple, un muscle, par exemple, qui serait tendu, une articulation qui ne bouge pas bien, tout ça, c'est par exemple, des causes qui pourraient faire en sorte que tu as des engourdissements ou des pertes de force dans certains membres. Nous, on est vraiment les professionnels experts, si on veut, pour en faire le diagnostic puis le traitement. Donc ça ressemble pas mal aux conditions, mais honnêtement, ça peut être très large. Tout ce qui est, par exemple, les commotions cérébrales, les syndromes post-commotionnels, on peut traiter ça aussi. Des troubles de la mâchoire, par exemple. Donc, ça aussi, dans le fond, la mâchoire, c'est une articulation comme les autres articulations du corps. Souvent, ce qu'on va accorder ou ce qu'on va attribuer au chiropraticien, c'est le traitement de la colonne vertébrale. On est vraiment connu pour ça. Puis même, je pense que ça fait partie des mythes qu'on va pouvoir discuter tantôt, mais les chiropraticiens, non, ça ne traite pas juste les problèmes de colonne vertébrale, ça travaille vraiment tout le corps en entier, si on veut, mais en restant dans le neuromusculosquelettique, comme je le disais tantôt. Sinon, ça peut être des problèmes de tendons, des blessures sportives. Des fois, c'est du post-traumatique. Des fois, ça va être, par exemple, des blessures qui sont plus chroniques, Donc, c'est vraiment varié. Puis encore une fois, c'est pas tous les chiropraticiens qui traitent toutes les conditions. On a vraiment chacun un petit peu notre préférence, notre petit dada, nos expertises. Puis ça fait en sorte qu'on peut traiter une variété de patients allant de l'enfant jusqu'aux personnes plus âgées. Donc.
Super! Puis là, en fait, on en a parlé un peu tantôt, les études, mais les études en chiro, ça ressemble à quoi?
Oui, super bonne question. Pour devenir chiropraticien, en fait, on n'a pas vraiment le choix au Québec, on doit aller à l'université. Mmh. C'est un doctorat de premier cycle qui est d'une durée de 5 ans, puis c'est quand même 245 crédits universitaires. Donc ça, je sais que des fois, ça peut surprendre les gens, en sens que c'est vraiment beaucoup de crédits, puis pour les étudiants en santé qui sont soit à l'université, puis qui savent c'est quoi, c'est vrai que c'est beaucoup de cours. Dans le fond, ça s'étale sur une période de 5 ans, 11 sessions. C'est divisé principalement, je dirais, en deux grandes catégories. Donc, une partie un peu plus théorique au début, puis les deux dernières années qui sont des parties un peu plus appliquées, plus pratiques, où est-ce que là, on a vraiment un internat, puis on voit des patients, puis on
ressemble pratique. À ce qu'on fait en médecine, là, finalement, un genre, en termes d'années.
C'est un genre de 3 ans théoriques, puis un genre de 2 ans plus pratiques.
Exactement. Vraiment, puis tu sais, dans les 3 années qui sont plus théoriques au début, on a la première année qui est tout ce qui est les sciences fondamentales, mm-hmm. le fonctionnement du corps humain sans maladie, quand tout va bien. Donc ça va quand même bien habituellement. Deuxième année, on tombe dans tout ce qui est un peu plus les maladies. Par exemple, là, tout ce qui est les maladies, oui, dans le neuromusculosquelettique, mais les maladies en général. Mm-hmm. Donc, on traite aussi tout ce qui est les systèmes endocriniens, cardiovasculaires, pulmonaires, les maladies de la peau, des trucs comme ça. Évidemment, on ne va jamais pouvoir faire un diagnostic ou un traitement de ces conditions-là. Mais au moins, on sait qu'ils existent. Puis après ça, nous, ça fait en sorte qu'on ait des professionnels qui sont habilités puis mm-hmm. qui sont entraînés à les détecter puis à référer plus facilement aux mm-hmm. besoins. Fait que la deuxième année, c'est plus au niveau des maladies. Au niveau de la troisième année, on s'intéresse beaucoup au diagnostic. Fait que là, on est dans le diagnostic, tout ce qui est le processus de décision clinique, tout ce qu'on fait avec les patients en termes de traitement. Puis la quatrième, cinquième année, c'est vraiment un stage, un internat, je dirais, intensif. C'est pendant 18 mois qui s'échelonne sur 4 internats différents, où on voit des patients, évidemment supervisés par des cliniciens d'expérience, puis graduellement, on a de plus en plus de liberté. Je pense que ça ressemble à voir en médecine, mm-hmm. en fait, au niveau de l'externat, puis même de la résidence, là. Donc, pour nous, c'est un peu l'équivalent de ces deux concepts-là. Et puis, faut pas oublier, évidemment, il y a l'internat, mais en plus d'avoir l'internat, nous, on est aussi, on continue d'avoir des cours pour peaufiner mm-hmm. certaines connaissances. Fait qu'il y a d'autres cours qui continuent de s'ajouter pendant la quatrième puis la cinquième année. Mais je vous dirais qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus investi dans nos patients, puis on a juste hâte de graduer puis faire ça. Mais c'est clair qu'il y a encore des connaissances à peaufiner. Fait que pendant 5 ans, on a beaucoup, beaucoup de cours.
Si ça a l'air vraiment comme chargé, là, c'est que le nombre de crédits, est-ce que c'est comme facile quand même de garder un bon équilibre de vie, une vie personnelle quand même, malgré toutes les études?
Oui, c'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, je pense que c'est le but de votre podcast, en fait. Mm-hmm. Puis j'étais super content d'être invité ce matin. T'sais, on peut avoir un programme qui est super chargé, mais il ne faut pas négliger évidemment la vie personnelle. Mm-hmm. Ça, je pense que notre génération, on est de plus en plus sensibilisé à ça, si je ne me trompe pas. Non, c'est super important de le faire. T'sais, par rapport à ça, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est important de, oui, s'investir à 100% dans ses études, mais il faut s'investir à 100%, donc avec autant d'intensité puis d'ardeur dans sa vie personnelle, si mm-hmm. on veut. Moi, personnellement, je me suis vraiment donné dans tout ce qui était les implications, un peu plus parascolaires. Fait que oui, j'ai étudié super, super fort, mais je mettais autant d'efforts dans d'autres implications qui m'ont permis de rencontrer tellement de gens intéressants. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller en Australie, c'était en 2019, à Brisbane pour le Congrès international des étudiants en chiropratique. Mais tu sais, ça, c'est une implication qui demandait du temps. Puis je sais que vous avez le même type d'implication là, en médecine ou dans d'autres programmes, mais qui a tellement rapporté au final. Mm-hmm. Parce que là, aujourd'hui, ça fait en sorte que j'ai des amis, des connaissances chiropraticiens, chiropraticiennes un peu partout dans le monde, en Australie, en Europe, en Afrique, à cause de cette implication-là. Puis ça fait en sorte que mes études étaient peut-être un peu moins pénibles. Tu étudies fort, mais tu le sais qu'après ça, t'as tout ce côté-là stimulant, exactement, qui t'attend. C'est parmi les trucs que je donnerais, mais c'est possible d'avoir un équilibre de vie, mais on se cachera pas que c'est un programme qui est assez intense. Puis je pense que quand on va dans le domaine de la santé, on s'attend à travailler beaucoup. Il faut aimer ça, absolument.
OK. Puis là, en fait, ça fait déjà quelques mois que tu travailles comme chiropraticien. Je voudrais savoir, au day-to-day, mettons, ton horaire de semaine en clinique, ça ressemble à quoi?
Oui, bonne question. Mon horaire clinique, ça dépend vraiment de moi et uniquement de moi. C'est sûr qu'il faut que tu t'arranges avec les collègues de ta pratique, de ta clinique, pour s'assurer que vous couvrez le plus de plages horaires disponibles pour que les patients y aient un suivi. Ça, c'est évident. Mais mon horaire, c'est vraiment un horaire de travail autonome. Donc, un chiropraticien, on est tous des travailleurs autonomes, ou presque en tout cas, puis ça fait en sorte qu'on décide vraiment notre horaire. Donc, par exemple, mon horaire à moi, puis ça, c'est vraiment propre à moi. J'ai des collègues qui travaillent plus, j'ai des collègues qui travaillent moins. Mon horaire, ça s'échelonne sur une journée, une semaine de 4 jours. donc 4 journées par semaine. Moi, j'ai décidé de faire des plus grosses journées. Au début de la semaine, je me dis, OK, je fais des 12 heures, des 9 à 9. Évidemment, je prends le temps de dîner, d'aller m'entraîner là-dedans, mais j'essaie de voir le plus de patients possible, autant en avant-midi qu'en après-midi. Donc, ça, c'est pour ce qui est de mon horaire. Puis, je m'assure après ça d'avoir des journées de congé dans ma semaine pour soit finir mes dossiers, faire ce qui me tente, en fait. Puis, comme je disais tantôt, bien, c'est sûr que je termine aussi un programme de deuxième cycle en chiropratique du sport. Donc, j'ai encore des examens, j'ai encore des cours à étudier. Fait que pour moi, de travailler peut-être 4 journées par semaine au lieu de 5, c'est sûr que c'est bénéfique pour ce qui est des études. Mais c'est vraiment propre à moi. Puis, si jamais je veux travailler plus ou moins, je vais pouvoir le modifier au besoin. Faut travailler de jour, de soir, parfois de fin de semaine aussi. Mais ça, encore une fois, c'est pour répondre à la demande. Puis là, j'écoutais le podcast que vous avez fait avec notre collègue physiothérapeute, oui, là, Simon Nadeau, qui disait ça exactement. Il parlait que c'est important d'offrir des plages horaires, soit en soirée, même des fois la fin de semaine. Puis c'est vrai, les patients, il y en a beaucoup qui font le fameux 9 à 5, qui travaillent toute la journée. Moi, je travaille jusqu'à 9 heures personnellement pour les accommoder, ces patients-là. Donc, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir, vont coucher les enfants. Après ça, ils viennent pour leur traitement en chiro. Ils prennent soin d'eux, puis après ça, ils peuvent aller retourner à la maison puis vaquer à leurs occupations. Mais donc, c'est vraiment un horaire de chiropraticien. Oui, très, très, très flexible.
OK, c'est le fun. Puis, on a vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Mais c'est quoi les différences entre un chiro, un physio, puis j'ai un ostéopathe aussi?
Oui. Oui, absolument. C'est une question qu'on me pose évidemment beaucoup en clinique aussi. Des fois, la blague, ce que je réponds à mes patients, c'est que moi, j'aime mieux que tu ailles voir, par exemple, un professionnel qui va être investi à 100% dans tes soins, qui va être à la fine pointe, si on veut, des données scientifiques, qui va avoir lu les plus récentes données probantes au sujet du traitement des conditions musculo-squelettiques. Au final, là, c'est des professions qui s'intéressent grosso modo aux mêmes. Des professions qui s'intéressent grosso modo aux mêmes conditions. On parle beaucoup là, justement du musculo-squelettique, des problèmes articulaires, mais c'est dans les outils qui sont utilisés que ça va différer puis que ça va varier d'une profession à l'autre. Donc, pour régler ces problèmes-là qui sont semblables, on va utiliser des outils qui sont différents. Par exemple, là, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'évidemment, pour 10 chiropratiques, il va y avoir 10 techniques ou 10 traitements qui vont être différents ou 10 prises en charge différentes. De manière générale, par exemple, en ostéopathie, ils vont s'intéresser beaucoup à tout ce qui est les fascias viscéraux, tout ce qui est les tissus mous, puis ils vont pouvoir avoir des bons résultats grâce à ça. En physiothérapie, on parle généralement de tout ce qui est la réadaptation. Ils sont excellents pour donner des bons exercices. Ils font un petit peu de thérapie manuelle aussi. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est de la physiothérapie. Puis en chiropratique, encore une fois, il y a la thérapie manuelle, il y a la prescription d'exercices, la prescription de conseils ou des stratégies d'autogestion, par exemple. Mais ce qui va vraiment venir différencier le chiropraticien des autres professionnels, habituellement, c'est probablement l'accès au diagnostic neuromusculosquelettique, donc le fait qu'on fait une évaluation puis qu'on peut poser notre fameux diagnostic d'un point de vue légal. Puis ensuite, la prise de radiographie puis l'interprétation de ces radiographies-là. Donc ça, c'est intéressant. Les chiropraticiens peuvent faire ça. Ça vient un petit peu, des fois, nous différencier. Puis je l'explique à mes patients comme ça, ils peuvent savoir vers qui se tourner pour différentes conditions. Mais encore une fois, je reviens avec le fait que pour la même condition, on peut aller voir tous ces professionnels-là, avoir des super bons résultats. Puis encore une fois, bien, pour dans la même profession, il n'y a aucun professionnel qui va être différent. Donc généralement, lorsqu'on parle de réadaptation post-chirurgicale, un gros trauma qui nécessite une certaine réadaptation, le physiothérapeute va être habituellement très bon pour ça. Douleur en aiguë, chronique, les chiropraticiens sont très habilités à ça. Mais encore une fois, j'ai plusieurs chiropraticiens, collègues qui vont faire de la grosse réadaptation post-chirurgicale, qui vont être excellents là-dedans. Puis il y a des physiothérapeutes ou des ostéopathes qui sont très bons en thérapie manuelle. Donc, encore une fois, c'est juste de les consulter puis d'apprendre à les connaître personnellement, dans le fond.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser à, tu sais, quand justement j'étudiais en chiro, il y avait des gens, des fois, qui me posaient cette question-là. Ah, tu sais, mettons, moi, je vais voir un physio, tu me conseillerais-tu plus d'aller voir un chiro ou peu importe? Puis, à chaque fois, moi, ce que je disais, c'était plus genre, est-ce qu'en ce moment, tu es à l'aise avec ton traitement? Est-ce que tu as des bons résultats? Est-ce que tu t'entends bien avec la personne qui te traite? Puis, si la réponse est oui à toutes ces questions-là, bien, souvent, j'étais comme, ben, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de dire là, à ça, tu sais, si tu es à l'aise avec ce traitement-là. Pourquoi changer? T'sais, si tu as des bons résultats et tu es bien avec cette personne-là.
T'sais... Exactement. Encore une fois, je dis souvent, j'aime mieux que tu ailles voir quelqu'un qui va être à l'écoute de tes besoins, puis surtout qui va faire un plan de match avec toi. Mm-hmm. Parce que tu as beau aller voir le meilleur chiropraticien ou le meilleur physiothérapeute ou le meilleur ostéopathe, mais si il fait juste s'asseoir là-dessus, puis il fait pas un plan de match avec toi, ou est-ce que tu es vraiment au centre de ses préoccupations, si on veut, tu n'auras pas nécessairement les résultats escomptés. Donc, c'est vraiment ça. C'est trouver le professionnel qui est à l'écoute de vos besoins, puis surtout que son plan de match à lui ou ses interventions vont vraiment...
Toi.
Ouais, exactement. Ça va fitter avec tes valeurs puis avec tes attentes aussi. Donc, ça ressemble à ça.
OK, bonne réponse. Ensuite, dans quel milieu les chiros peuvent-ils travailler?
À 99%, je vous répondrais, c'est dans le milieu privé. En fait, on est presque exclusivement en milieu privé. Donc, ça peut être une autre différence, si on veut, avec d'autres professionnels du système public. Nous, on n'est pas justement dans les hôpitaux, on n'est pas dans le milieu public, on est presque exclusivement en pratique privée. Ça peut être des cliniques qui sont dites monodisciplinaires. Donc ça, c'est juste une clinique de chiropratique, si on veut, où est-ce que le chiropraticien peut être seul ou avec des collègues, mais une seule discipline. Sinon, ça pourrait être des cliniques qui sont dites multidisciplinaires. Donc là, encore là, tu as plusieurs... Si on entend beaucoup le terme, le multi, sûrement que vous l'entendez toujours. Ce que ça veut dire, multidisciplinaire, c'est que tu as plusieurs professionnels dans une même clinique, si on veut, sous le même nom, mais qui ne vont pas nécessairement travailler en équipe. Ils peuvent se référer des patients, ils peuvent dire « Ah, j'aimerais que tu t'occupes de tel patient parce que je juge que tu vas avoir des meilleurs résultats que moi, par exemple. » Mais ils ne vont pas nécessairement travailler de concert sur un dossier. Puis il y a des cliniques interdisciplinaires. Donc moi, par exemple, je travaille dans une clinique qui est interdisciplinaire, où est-ce que là, on va vraiment se pencher ensemble sur un même dossier. Ça aussi, on a de plus en plus de cours à l'université qui parlent de l'interdisciplinarité, mais c'est exactement ça, c'est de se dire, au lieu de dire, est-ce que je vais voir un chiropraticien, un physiothérapeute, un ostéopathe, bon, je me dis, OK, est-ce que je pourrais aller voir tous ces professionnels-là qui vont se parler entre eux puis faire le meilleur plan de match possible pour moi? Évidemment, en travaillant dans une clinique inter, ce n'est pas toujours la stratégie qu'on va opter pour. Parfois, je vais avoir des passages seulement en chiropratique. On a des bons résultats, des conditions parfois un peu plus simples qui se règlent rapidement. Ça va être bien. Mais oui, parfois, on a la possibilité de vraiment se mettre en équipe puis travailler avec plusieurs cerveaux sur un même cas. Ça, c'est pour ce qui est des chiropraticiens, leur milieu de pratique. Puis, ce qui est intéressant, je vais peut-être vous en parler ce matin, récemment, là, dans les dernières années, il y a de plus en plus de groupes de médecine familiale, des GMF, qui vont intégrer des chiropraticiens dans leurs équipes. Donc là, je sais que le podcast, justement, s'adresse à des étudiants en santé ou même des professionnels de la santé. De plus en plus de gestionnaires de ces groupes de médecine familiale-là vont, comme je le disais, intégrer un chiropraticien pour s'occuper de tout ce qui est les troubles neuromusculo-squelettiques, que le médecin, par exemple, il ne voudrait pas s'occuper, puis il dit « Écoute, je ne sais pas quoi faire avec toi, moi, ce n'est pas nécessairement mon champ d'expertise, j'aimerais que tu t'occupes de sa lombalgie ou j'aimerais que tu t'occupes de sa douleur au cou, de sa douleur à l'épaule, par exemple. » Donc, de plus en plus de chiropraticiens vont venir intégrer ces GMF-là ou ces autres milieux de clinique-là. Donc, on sort de plus en plus de notre contexte monodisciplinaire, puis on s'intègre de plus en plus. Puis, en fait, je pense que c'est le cas pour tout le monde. On est vraiment rendu à l'ère où on travaille le plus possible en équipe, puis avoir les résultats, parce qu'au final, c'est les résultats du patient qu'on veut, puis c'est sa santé, puis son bien-être, dans le fond.
Vrai. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'il y en ait de plus en plus dans les cliniques de médecine familiale. Je trouve ça super intéressant. Puis, tu en as glissé un petit mot tantôt, mais est-ce qu'il existe différentes spécialités en chiropratique?
Oui, très bonne question. Le terme des spécialités, il faut toujours faire attention. Puis même en préparation pour le podcast, on s'est attardé à ça. La spécialité en chiropratique, ce n'est pas nécessairement comme en médecine où est-ce que tu vas prendre une spécialité puis tu vas devenir, par exemple, bon, je vais être chirurgien, je vais être cardiologue. En chiropratique, il existe des spécialités, mais la plupart des chiropraticiens, je vous dirais, vont devenir chiropraticiens, chiropraticiennes généralistes, si on veut. Donc, ils vont traiter à peu près toutes les conditions, puis ils vont pouvoir avoir un champ d'intérêt qui est varié selon leur contexte. S'ils aiment travailler, par exemple, avec les enfants, ils peuvent avoir un groupe d'intérêt ou un champ d'intérêt avec tout ce qui est la pédiatrie, la périnatalité aussi. Mais il existe quand même des spécialités avec c'est le Collège royal de chiropratique canadienne, si on veut, puis il y a 5 spécialités qui existent au Canada. Donc, on parle de sciences cliniques, il y a de l'orthopédie, il y a de la réadaptation, puis de l'ergonomie. Il y a ensuite une spécialité en radiologie, puis la spécialité en chiropratique du sport. Donc ça, c'est vraiment les 5 spécialités qui existent. Pour avoir ce titre-là, tu dois faire 2 à 3 ans d'études supplémentaires. C'est vraiment une résidence. Donc on appelle ça un fellowship. Ça ressemble un petit peu plus à la médecine puis à la résidence. Puis tu ressors de là avec le fameux titre, puis tu dois être inscrit au niveau du Collège royal de chiropratique. Donc ça, c'est vraiment des hauts standards d'études. Mais il y a aussi beaucoup de chiropraticiens qui ont un intérêt, par exemple, avec les soins gériatriques. On ne pourra pas nécessairement les appeler spécialistes, mais ils ont fait des formations supplémentaires pour avoir justement une expertise supplémentaire avec ces patients-là. Puis ils vont avoir beaucoup. Donc, ils vont avoir l'expérience clinique qui va rentrer avec ça. Il y a également la chiropratique du sport. Donc, moi, par exemple, je ne suis pas spécialiste en chiropratique du sport, mais j'en fais beaucoup. Puis, je fais un programme de 2e cycle pour peaufiner mes connaissances un petit peu dans ce domaine-là. Parmi les autres champs d'intérêt, on pense à la neurologie fonctionnelle. Donc, il y en a, personnellement, ce n'est pas mon cas, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment calés en tout ce qui est neurologie fonctionnelle. Puis, encore une fois, c'est des longues et des longues heures d'études. Ça prend plusieurs années pour obtenir ce titre-là, qui est vraiment un champ d'intérêt, si on veut. Il y a aussi, comme je le disais, la pédiatrie, périnatalité, qui sont les principaux champs d'intérêt, outre la chiropratique générale, si on veut.
OK. Bien, quand même, beaucoup de variétés, c'est un peu. Puis, tantôt, on parlait de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité. Bon, avec quel professionnel, au quotidien, les chiros, ça travaille avec qui?
Au quotidien, je vous dirais qu'on travaille pas mal avec tout le monde. Honnêtement, ça dépend de ton contexte. Donc moi, par exemple, je suis dans une clinique interdisciplinaire, comme je le disais tout à l'heure. Les professionnels avec qui je travaille le plus sont les physiothérapeutes, j'ai des collègues massothérapeutes, ostéopathes, des nutritionnistes, c'est vraiment tout ce monde-là que j'ai dans ma clinique, des kinésiologues aussi. On travaille aussi beaucoup avec les médecins de famille, je dirais. Donc, certains médecins spécialistes, là, je pense notamment aux orthopédistes puis aux médecins, en fait, en médecine du sport, si on veut. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est des conditions que je vois en chiropratique, j'ai souvent à communiquer avec soit l'orthopédiste, soit le médecin du sport. Mais généralement, je vous dirais que c'est le médecin de famille qui est comme le point pivot de la santé de mon patient. Soit que je vais lui envoyer, dans le fond, une lettre là, avec des trouvailles que j'ai fait à mon examen, ou soit que lui va pouvoir nous référer des patients. Donc, comme je disais tantôt, une référence directe, dans le fond, en chiropratique pour le traitement de certaines conditions. Je voulais peut-être parler justement un peu de kinésiologue, entre autres. Là. Je vais peut-être ajouter un point par rapport à ça. Je travaille de plus en plus avec des kinésiologues, puis c'est une profession qui mérite vraiment être connue. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est les spécialistes du mouvement, spécialistes de l'exercice, de l'entraînement physique, puis on se rend compte que les gens ont besoin de mouvement. Puis c'est vraiment ça qui va les aider la plupart du temps là, pour guérir leurs douleurs, que ce soit une douleur au dos ou ailleurs dans leur corps. Donc, c'est une belle trouvaille que j'ai faite cette année. Tu sais, quand j'étais aux études, je pensais pas nécessairement que j'allais autant triper avec la kinésiologie puis des kinésiologues. Puis je me rends compte de plus en plus que c'est des professionnels indispensables. Mais on travaille vraiment avec beaucoup de monde. Puis tout le monde, en fait, est indispensable aussi.
Là. OK. Mm-hmm. Puis là, on connaît le fameux craquage. On dirait que c'est ça qui est comme plus mis d'avant. Mais est-ce que vous faites d'autres techniques ou d'autres approches thérapeutiques? Que ça, là.
Absolument. Bien, on peut prendre peut-être quelques secondes pour justement aborder le fameux craquement, qu'on appelle aussi une manipulation articulaire. Dans le jargon chiropratique, on va appeler ça un ajustement chiropratique. Une manipulation articulaire, ça peut être fait à toutes les articulations du corps. Donc, pas seulement au niveau de la colonne, principalement au niveau de la colonne, si on traite une douleur à cet endroit-là, mais ça peut être fait à d'autres endroits au niveau du corps. Ce que c'est, là, lorsqu'on s'intéresse à la thérapie manuelle, il y a différents types de mobilisation. Donc, on peut prendre une articulation, la bouger de différentes façons, puis il va y avoir différents, au niveau de la nomenclature, différents grades. Donc, on peut aller très doucement au début, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de l'amplitude articulaire. Puis, donc, il y a 5 grades, si on veut, de mobilisation, puis la manipulation articulaire, ou l'ajustement chiropratique, ou le craquement. C'est ce qu'on appelle une mobilisation de grade 5 ou de type 5. Ce qui est fait, dans le fond, c'est qu'on va venir vers la fin du mouvement articulaire où il y a une certaine restriction, puis avec une très grande vitesse, mais une très petite amplitude, si on veut, on va venir donner une impulsion pour venir augmenter l'amplitude articulaire. Ce qui se passe à ce moment-là, puis pourquoi on entend un craquement? Là, évidemment, ce n'est pas les os qui craquent, là. C'est vraiment pas ça. En fait, c'est qu'au niveau d'une articulation, il y a une capsule qui va venir entourer cette articulation-là et il y a un petit liquide, une sorte de liquide synovial qu'on appelle, donc comme un lubrifiant à l'intérieur de l'articulation. Puis lorsqu'il y a un mouvement rapide qui est fait sur ce liquide-là, puis ça, c'est un terme physique qu'on appelle la cavitation, c'est un liquide qui va devenir un gaz, qui va avoir comme une petite bulle de gaz qui se crée, puis la bulle de gaz qui éclate, puis qui fait un pop. Ça, c'est un phénomène physique. Là, je ne suis pas le plus calé en termes de physique ou quoi que ce soit. On appelle ce terme-là une cavitation. Donc, la manipulation articulaire, qu'il y a une cavitation ou pas, ça ne veut pas dire que l'articulation n'a pas bougé ou qu'on n'a pas augmenté l'amplitude articulaire chez notre patient. Mais oui, c'est vrai qu'on entend un fameux craquement. Puis des fois, il y a des gens qui ne savent pas d'où ça vient. Donc, je trouve ça intéressant qu'on l'aborde aujourd'hui. Mais oui, c'est vraiment ça. Donc, c'est un liquide qui forme une petite bulle de gaz. Puis l'instant de quelques millisecondes, ça fait un bruit qui est audible parfois.
C'est ça, puis tu pourras confirmer, c'est pas parce qu'il y a un craquement que tu as nécessairement ajusté
exactement.
Quelqu'un, puis c'est pas non plus l'inverse. Tu peux avoir ajusté quelqu'un sans qu'il y ait nécessairement un bruit qui vient avec.
Exactement. Par exemple, moi, toutes les fois que je me penche pour manger quelque chose, j'ai mes genoux qui craquent. Puis ça veut pas dire que mes genoux ils ont une manipulation articulaire, ça veut pas dire qu'il y a un traitement qui a été fait au niveau de mes genoux ou qu'il va avoir un changement à ce niveau-là. C'est vraiment juste un bruit qui est audible comme ça. Mais c'est vrai, c'est parfois méconnu. Là.
Sinon, ça prend quoi la recherche comme place en chiropratique? Parce que ça me fait penser à des cliniciens dans ma tête. En ce moment, je pense à
oui. Mais pour devenir chiropraticien, il faut passer par l'université. Puis là, on s'entend, tout ce qui est fait à l'université, c'est au niveau de la recherche, c'est au niveau des évidences, au niveau des connaissances scientifiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherches, évidemment. En plus d'avoir de la recherche dans à peu près chaque cours, parce que tout ce qu'on fait doit être supporté par des évidences scientifiques, il y a des cours de recherche que nous, on doit suivre pour devenir chiropraticien. Mm-hmm. Donc, il y a quelques cours au travers de notre cursus universitaire que nous, on va même produire de la recherche, s'intéresser à de la recherche, interpréter la recherche. Puis ensuite, quand on tombe en clinique, comme je le disais, donc les deux dernières années, dès qu'on fait une intervention sur quelqu'un, puis ça pouvait être tannant, puis je le comprends, les cliniciens qui exigeaient de nous qu'on trouve des articles scientifiques pour soit prouver, valider, soutenir tout ce qu'on fait. Donc, on devait analyser, par exemple, un article scientifique. Mm-hmm. Avant de faire une intervention chez quelqu'un, on doit présenter cet article scientifique-là à nos collègues et à notre clinicien pour s'assurer qu'on a fait le bon travail. Mais ça fait en sorte que tout ce qu'on fait, bien, on a de plus en plus de connaissances scientifiques. La recherche prend donc évidemment une part super importante. Puis, il y en a pour qui ça va prendre une part encore plus importante. Donc, par exemple, il y a au Québec, il existe une fondation sur la recherche en chiropratique qui va subventionner différents chercheurs. Puis c'est pas toujours des chiropratiens, mais tout ce qui est dans le neuromusculosquelettique, il y a plusieurs chercheurs, chiropratiens ou autres. Par exemple, je pense à tout ce qui est la biomécanique du corps humain, par exemple. C'est des types de recherches qui peuvent être faits. Puis, ça va nous aider après ça à avoir des meilleurs soins, là, si on veut, pour nos patients. Moi, par exemple, je me suis intéressé un petit peu à la recherche. J'ai goûté au travers de mon parcours. J'ai publié un premier article scientifique cette année. Puis là, j'en ai un deuxième qui est en cours de publication. Je me considère pas un chercheur, mais je trouve que c'est quand même important de s'y attarder, d'y toucher, de comprendre comment ça fonctionne aussi. Puis c'est qu'en parlant recherche, en parlant études scientifiques, on peut plus facilement communiquer avec d'autres professionnels. Mm-hmm. Au final, c'est ça qui fait la crédibilité d'une profession. C'est pour ça que pour nous, c'est super important. Puis c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on peut communiquer, par exemple, avec nos collègues, le médecin, physiothérapeute ou autre, puis parler des termes qui sont communs à ces professions-là. Donc, je dirais qu'il y a une grande partie de recherche en chiropratique. Puis les champs sont variés. Là, je parlais de biomécanique, mais on peut parler d'épidémiologie, de réadaptation aussi, de la neurophysiologie, beaucoup de neurophysiologie, de la douleur aussi en chiropratique. Donc, c'est des champs super intéressants.
Et dans pas mal tous les domaines de la santé, il y a de la formation continue.
Oui.
Puis j'imagine que vous aussi.
Absolument.
Fait que ça ressemble à quoi?
Absolument. Donc, étant chiropraticien, on fait partie de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et donc par la bande de l'Office des professions, puis on doit se tenir à jour. Donc, comment ça fonctionne en chiropratique? Je pense que c'est la même chose dans les autres professions, là, mais sur une période ou un cycle de 2 ans, on doit faire un minimum de 40 heures de formation continue. Là-dedans, nous, on a un 40 heures, mais c'est 40 crédits, là, dans le fond, qui équivaut un petit peu à la même chose. Il y a un 24 crédits là-dedans qui doit être fait au niveau de la radiologie. Donc, beaucoup de radiologie quand même en chiropratique, si tu es un chiropraticien qui désire avoir un permis de radiologie. Ça, c'est pas obligatoire d'ailleurs, mais il y a beaucoup de chiropraticiens qui ont ce permis de radiologie-là. Donc, on se tient à jour par rapport à l'imagerie, ça, c'est certain. Ensuite, ça, c'est quand même nouveau. On doit avoir, par exemple, une formation RCR qui est à jour à tous les cycles de 2 ans. Et puis, c'est de la formation continue qui est beaucoup axée sur, oui, notre champ d'expertise, donc le système neuromusculosquelettique, mais aussi on parle beaucoup de, comme je disais, d'épidémiologie. Ça peut être en tout ce qui est l'éthique, la déontologie aussi. C'est des types de formation continue qui est possible de faire. Puis aussi l'interdisciplinarité. Donc, ça, c'est quand même nouveau. Là, je l'ai vu dans un communiqué de mon ordre professionnel, mais ils acceptent, ils veulent qu'on fasse de la formation continue en interdisciplinarité. Donc, encore une fois, c'est comme un pas dans la bonne direction pour travailler encore plus avec les autres professions.
OK. Tantôt, on a parlé d'équilibre de vie, mais là, c'est sûr que tu es rendu de switcher de la vie d'étudiant à la vie adulte. Donc, est-ce que tu aurais des bons conseils, des astuces pour garder un bon équilibre de vie en tant que professionnel de la santé?
C'est un peu la même chose qu'étant étudiant, si on veut. Je pense que c'est d'y aller à fond dans ce qui est sa vie professionnelle, puis étant professionnel de la santé, de facto, on va être des personnes qui sont altruistes. Donc, on va toujours, ou on va avoir tendance, en tout cas, à mettre les besoins des autres avant les nôtres, puis le point négatif par rapport à ça, c'est qu'on aurait tendance à s'oublier des fois, là, comme personne, puis à tout donner pour nos patients, notre pratique, travailler super fort, rédiger des dossiers en soirée, penser à nos patients. Mm-hmm. Honnêtement, le meilleur conseil que je peux donner par rapport à l'équilibre de vie, c'est vraiment d'être capable justement de décrocher la fin de semaine. Quand tu es à la clinique, il faut que tu sois là à 100% au niveau physique, au niveau mental. Mais quand tu es chez toi, il faut que tu aies la capacité, l'habileté de vraiment mettre le cerveau à off, si on veut, puis de passer à autre chose. Sinon, je pense pas que tu vas survivre à ta carrière de professionnel de la santé. Ça, c'est juste mon opinion, évidemment. Mais un autre petit truc que j'ai réalisé cette année, je trouve qu'en tant que justement étudiant dans le domaine de la santé, puis éventuellement professionnel, on a toujours tendance à se fixer des gros objectifs. Mm-hmm. Mais c'est toujours des gros objectifs d'un point de vue de carrière, d'un point de vue professionnel. Puis là, justement, je vous entendais parler dans un de vos derniers podcasts, là, par exemple, que vous trouvez que vous fixez toujours c'est quoi la prochaine étape, what's next, c'est quoi le prochain objectif. Il faut faire la même chose pour notre vie professionnelle. Fait que là, moi, par exemple, cette année, j'ai décidé de me fixer un objectif sportif. Je me suis inscrit à mon premier Ironman 70.3 cet été. Fait que ça, c'est la demi-distance. Mais je l'ai fait parce que si je le faisais pas, ben j'allais pas nécessairement prioriser mon entraînement. J'ai toujours aimé m'entraîner, mais si j'ai pas un objectif qui est assez ambitieux que mes objectifs professionnels, ben ça va toujours venir en deuxième. deuxième. Mm-hmm. Fait que là, il y a un objectif qui est quand même ambitieux, puis là, je suis vraiment pas prêt pour cette triathlon-là. J'espère que je vais l'être, puis au moment de me réécouter, j'espère que je vais avoir réussi mon défi. Mais c'est vraiment que ça me pousse moi-même à prendre soin de ma santé, puis je m'en remercie à chaque fois. À toutes les fois que je finis un entraînement en piscine ou que je finis de faire mon jogging, par exemple, je me dis une chance que je l'ai mis en priorité parce que j'aurais pu être en train de penser à des passants, faire des dossiers. Fait que ce serait mes petits trucs, c'est vraiment d'y aller avec des objectifs personnel, puis pas oublier de prendre du temps pour ça, évidemment.
C'est bon. Et, bon, juste que j'étais comme, je t'écoutais, j'étais comme toute...
ouais.
Puis, tu sais, il y a beaucoup de... T'en as glissé un petit mot aussi, là, des fausses croyances, des mythes en chiro. Est-ce qu'il y en a que t'aimerais déconstruire?
Absolument. Fait que là, je m'étais fait une petite liste. On peut y aller un par un, puis là, on en a déjà abordé quelques-uns. Fait que, par exemple, le premier serait que les chiropraticiens, ça fait juste traiter la colonne vertébrale. Mm-hmm. Premier mythe, parce qu'on traite plusieurs conditions, allant de la cheville, une entorse de cheville, une douleur au pied, jusqu'à la mâchoire, ou même un peu plus haut encore, jusqu'aux commotions cérébrales, les douleurs à la tête, les maux de tête même. Mm-hmm. Donc, on peut vraiment traiter une panoplie de conditions. Toutes les articulations du corps, ou toutes les parties du corps peuvent être sujettes à être traitées par un chiropraticien. Pas juste la colonne. Ensuite, on parlait par exemple qu'un chiro, ça fait juste craquer. Puis là, c'est même une de tes questions tantôt, puis je pense qu'on a fini par changer de sujet.
Ouais.
On a parlé, c'est quoi les autres thérapies? Évidemment, ouais. Il n'y a pas juste la thérapie manuelle, mm-hmm, comme chiropraticien. En fait, une chance qu'il n'y a pas juste ça. Mm-hmm. Quand on regarde les guides de pratique qui guident en fait ce qu'on doit faire pour le traitement d'un patient, on parle toujours de soins qui sont multimodaux. La thérapie manuelle, ça peut être super utile pour des patients, mais ça doit être jumelé avec une prescription d'exercice qui est thérapeutique. Prescription de conseils adaptés pour le patient, des stratégies de support à l'autogestion. Ensuite, il y a le fait qu'on peut utiliser des thérapies qui sont dites complémentaires. Donc, on parle au laser, ultrasons, du taping, thérapie par onde de choc. Mmh. Puis encore une fois, là, il y a différents niveaux d'évidence pour ces différents outils de thérapie complémentaires-là. Il y en a qui sont plus efficaces pour certaines conditions. Il y en a d'autres qu'avec la recherche scientifique, on se rend compte qu'ils sont peut-être un peu moins efficaces. Mais encore une fois, il n'y a rien que pris seulement individuellement va être très efficace pour le patient. Il faut faire un plan de match qui est réaliste avec lui, savoir c'est quoi, par exemple, d'un point de vue fonctionnel qu'il veut retrouver comme activité. Puis la thérapie manuelle va juste être un de ces éléments-là. Mais tous les autres éléments que j'ai mentionnés, donc les soins qui sont multimodaux, vont en faire partie. Donc non, un chiropraticien, ça ne fait pas juste craquer. Puis même que pour certains patients qui représentent soit des facteurs de risque ou qui n'aimeraient pas ça. Fait que on parle d'autres fois, c'est pas tout le monde qui aime là, avoir une manipulation articulaire. Il y a des gens qui disent « Écoute, j'ai vraiment peur. » Ça m'arrive à chaque semaine. Puis parfois, ils ont peur juste parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Fait que là, évidemment, moi, je n'ai pas le temps de leur expliquer un petit peu comme on a fait tantôt. Mais malgré ça, je ne vais jamais tordre le bras à personne. Puis il y a des gens chez qui, pour plusieurs raisons, on va juste utiliser d'autres approches thérapeutiques. Mm-hmm. On peut y aller avec des mobilisations qui sont douces. J'ai plein d'outils aussi que je peux utiliser à ma disposition, des outils percussion, mécanique, des trucs comme ça. On va travailler aussi beaucoup les tissus mous, donc c'est pas juste articulaire, mais tout ce qui est les tendons, appliquer le bon niveau de stress au niveau d'un tendon pour qu'il guérisse de façon optimale, travailler les tensions musculaires. Donc c'est vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et puis si le patient est soit pas à l'aise, ou soit qu'il présente une condition qui fait en sorte que moi, ça serait trop dangereux, ou en fait que je pourrais pas faire un traitement articulaire à ce patient-là par peur de le blesser ou quoi que ce soit, on va juste éviter complètement pour que ce patient-là ait des résultats, mais sans que ce soit dangereux pour lui, justement. Par rapport au mythe, ben en fait, justement, on vient d'ouvrir un petit peu la porte à ça. Souvent, ce qu'on peut entendre, c'est que les traitements chiropratiques, ça peut être dangereux. On entend souvent ça. Encore une fois, tout ce qui est des interventions dans le domaine de la santé va toujours présenter un certain niveau de risque, peu importe ce qu'on fait. Là. Autant en thérapie manuelle, tout ce qui est une intervention chirurgicale, par exemple, prescription de médicaments, va toujours avoir ses risques. Mm-hmm. C'est toujours de se poser la question, ben, c'est quoi le ratio risque-bénéfice? Mm-hmm. Pourquoi je fais cette intervention-là? Donc, encore une fois, il n'y a pas aucun chiropraticien qui va faire une intervention en se disant « Écoute, je vais potentiellement là, blesser mon patient sans penser à ben, c'est pourquoi je le fais, c'est quoi mon intention, puis c'est quoi le niveau de risque pour cette personne-là. » On se rend compte que les soins chiropratiques, c'est justement très, très sécuritaire de par notre analyse, notre diagnostic qu'on fait, puis le fait en sorte qu'on va venir analyser les facteurs de risque pour différentes conditions. Un mythe qu'on entend souvent, par exemple, aux facteurs, par exemple, l'AVC ou des trucs comme ça, on entend souvent, par exemple, que les chiropraticiens, s'ils font une intervention, ou même d'autres professionnels, une intervention au niveau du cou, pourrait venir créer un AVC chez un patient. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est qu'il n'y a aucun lien de cause à effet qui a pu être prouvé aujourd'hui là, avec la littérature scientifique dont on dispose, comme quoi une intervention au niveau du cou pourrait augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, d'AVC chez un patient. S'il y a un lien, ça pourrait seulement être un lien temporel. Donc, ce qu'on a fait, il y a plusieurs épidémiologistes qui se sont intéressés sur la question, puis on s'est rendu compte que les patients ont autant de chances d'aller consulter d'autres professionnels de la santé, par exemple un médecin, un physiothérapeute ou un chiropraticien, puis l'incidence d'avoir avoir, par exemple, un AVC va être la même dans ces différentes professions-là. Mm-hmm. Puis il y a même d'autres groupes de recherche, puis ça, c'est assez récent, qui se sont intéressés à savoir, bon, toi, tu as fait, par exemple, une dissection d'une artère cervicale, parce que ça arrive, c'est une condition qui est très grave, très urgente, puis qui arrive dans la population générale. Puis ils se sont rendu compte qu'il y en avait autant qui avaient reçu soit une manipulation au niveau du cou, soit qui n'avaient rien reçu, ou qui avaient reçu seulement une évaluation, mais pas de traitement. Mm-hmm. Puis ça, c'était la même incidence dans les différents groupes. Donc, encore une fois, au niveau de l'état des données scientifiques, on ne peut pas dire que la chiropratique, c'est dangereux plus que les autres professions. Encore une fois, ce qui est intéressant ou ce qui est la partie importante de mon travail, je vous dirais, c'est que je travaille beaucoup avec des personnes qui ont soit des maux de cou, des maux de tête, qui ont beaucoup, des fois, des engourdissements au niveau des bras. Donc, on parlait de neuropathie, des radiculopathies, des paresthésies au niveau des membres. Puis tout ça, c'est des symptômes de quelqu'un qui serait en train d'avoir, par exemple, un AVC. Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes les fois que quelqu'un se présente dans mon bureau, je ne peux pas faire un traitement sans l'évaluer. On va prendre le temps de, premièrement, arriver à un bon diagnostic, avoir un processus de décision clinique, à savoir est-ce que je peux éliminer les facteurs de risque le plus possible. Si la personne, je suspecte qu'elle est en train d'avoir quelque chose, une maladie qui est plus grave, qui est centrale, qui nécessite une référence médicale rapide ou urgente, évidemment, on va le référer à ce moment-là. Puis même si un patient qui présente aucun de ces symptômes-là, mais qui présente trop de facteurs cardiovasculaires, par exemple. Donc, quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, le tabagisme, consommation d'alcool, des trucs comme ça, je pourrais décider de ne pas avoir d'intervention au niveau de ce patient-là, même s'il ne présente pas nécessairement de symptômes alarmants, juste parce que je trouve que le ratio risque-bénéfice n'en vaut pas la peine. Donc, encore une fois, il n'y a pas de risque absolu. C'est juste de bien communiquer avec son chiropraticien pour s'assurer que ce qu'on fait demeure sécuritaire, dans le fond.
L'autre fois, je me suis fait poser la question, justement, truc d'AVC. Puis, en tout cas, j'expliquerai pas tout le contexte, là, mais tu sais, c'était un résident qui m'avait posé la question. Et tu sais, moi, je me fais... c'est mon propre objectif, mais un peu le devoir de... Tu sais, vu que j'en connais un peu sur la chiro, je veux dire, pas nécessairement de protéger la chiro. C'est pas ça mon but, mais juste de dire comme les bonnes affaires. Puis si tu connais pas ça, au moins t'éduquer un peu c'est quoi, puis de te faire voir les deux envers de la médaille, tu sais. Puis là, tu vois, tu me dis ça, puis j'aurais jamais aussi bien expliqué. Puis clairement, je me suis pas bien exprimée comme ça, mais écoute, je vais le réécouter le podcast, puis je vais essayer de garder ça dans la tête.
Non, puis en fait, on peut en parler pendant super longtemps aussi, mais t'as raison, c'est beaucoup d'éduquer les gens, tu sais. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres professionnels qui, par méconnaissance, vont véhiculer certains propos par rapport à ça. Puis tu sais, eux-mêmes, ils se sont jamais intéressés à soit lire la littérature scientifique qui est disponible, ou aller eux-mêmes avoir un traitement chiropratique. Lorsqu'on comprend que notre formation est vraiment exhaustive, qu'on fait une évaluation qui est complète, qui n'est pas seulement biomécanique, mais qui est aussi neurologique, vasculaire et tout, puis qu'on est capable d'évaluer toutes ces conditions-là, puis de dire, écoute, je ne peux pas être sûr à 100% là, que tu n'es pas en train de faire un AVC, mais selon mes connaissances, selon tous ces facteurs-là, je pense que c'est sécuritaire pour toi. C'est vraiment ça. Puis c'est de comprendre aussi qu'une intervention au niveau du cou, là, des fois, je ne sais pas ce que les gens ils peuvent s'imaginer, mais c'est pas, on ne va pas virer la tête au complet du patient. C'est très doux, puis on parle d'à peine quelques millimètres parfois de venir travailler au niveau des muscles, au niveau de l'articulation, de façon très douce. En fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir, là, c'est que c'est très doux. Puis les gens, dans la vie de tous les jours, font des mouvements beaucoup plus brusques puis beaucoup plus, avec une amplitude beaucoup plus grande. Par exemple, quand je conduis, là, juste en me stationnant tantôt, j'ai reviré ma tête pour reculer, puis ça ne m'a pas blessé plus qu'il faut. Ça ne m'a pas blessé plus qu'il faut. Fait que c'est vraiment ça qui est à comprendre. Je pense que c'est d'avoir une ouverture d'esprit, de dire bon, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que je m'imagine, c'est quoi mes biais, puis comment je peux les éviter. Mais je ne peux pas en vouloir à personne de véhiculer parce que c'est souvent juste par méconnaissance.
C'est ça. Puis c'est un peu comme on disait tantôt, avec l'autre professionnel, je veux dire, les gens, on est protégés, c'est légalement, c'est super bien encadré. Si jamais tu fais quelque chose, pas toi, mais je parle un chiropraticien ou même n'importe quel autre professionnel de la santé qui a un autre professionnel, fait quelque chose de travers, je veux dire, il y a quand même un recours. Là. Si tu exactement. Fais quelque chose de pas indiqué,
Exactement. Puis tu sais, c'est depuis quand même 1974 que la chiropratique est réglementée au Québec. Donc, ça fait qu'il y a un standard d'excellence à suivre. Puis ça fait en sorte que tous les chiropraticiens que vous pouvez justement rencontrer au Québec doivent se tenir à jour puis doivent vraiment
respecter ces conditions-là.
Oui, exactement.
Parfait.
Je vais tester un dernier mythe, là. On va en parler rapidement par rapport aux vertèbres déplacées. Tu sais, des fois, les articulations déplacées. Puis là, j'ai écouté récemment un podcast super bon, Parle-moi de santé, vous connaissez probablement. Alexis Goujon, qui est physiothérapeute. Honnêtement, c'est un podcast qui est quand même vraiment populaire aussi au Québec pour ce qui est des soins. Lui, c'est un physiothérapeute, mais tout ce qui est... exactement. Mais il fait un petit peu le même travail que vous. Puis il a fait un épisode super intéressant là-dessus. En gros, là, quand on fait une intervention au niveau de soit la colonne vertébrale ou au niveau d'une articulation, on ne vient pas replacer une vertèbre. Donc, vos vertèbres ne sont jamais déplacées. Ça, je l'entends souvent. Il y a plein de patients qui me disent, écoute, mon chiro, il m'a replacé ma vertèbre. Puis tu sais, je trouve ça charmant, je trouve ça cute, c'est certain. vertèbre, mais c'est vraiment pas ça. S'il y a une vertèbre qui est déplacée, honnêtement, c'est que vous avez un énorme trauma au niveau de la colonne vertébrale, puis vous seriez sûrement pas dans le bureau d'un chiropraticien. Vous allez être plus avec un urgentologue, ouais, dans un hôpital, quelque chose comme ça. Donc non, on replace pas des vertèbres. En gros, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un mouvement qui est pas adéquat, donc par exemple une vertèbre qui va pas dans une certaine direction, tourne à gauche, ça va super bien, mais dès qu'on tourne à droite, oh, ça bloque un petit peu. Et nous, on vient juste aider cette vertèbre-là à bouger un peu mieux vers la droite, par exemple. Fait que c'est pas de replacer nécessairement la vertèbre, mais c'est juste de l'aider à faire son mouvement, d'enlever, par exemple, les tensions musculaires autour qui font en sorte que ça peut limiter le mouvement. Puis ensuite, bien évidemment, on donne des exercices et des conseils à cette personne-là, puis habituellement, elle s'en sort bien.
Est-ce que tu avais d'autres mythes?
Hey non, ben ça fait le tour, à moins que vous en ayez. Là, mais...
non, c'était vraiment ça. J'ai vraiment full aimé les petits trucs que tu as donnés. Si tu avais à donner un conseil aux étudiants en médecine ou même de d'autres domaines de la santé pour favoriser la collaboration avec les chiropraticiens, ce serait quoi?
Ce serait premièrement d'être... Premièrement, je dirais d'en apprendre sur la chiropratique. Donc, le podcast d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça l'objectif. Avant de se fermer complètement à dire non, moi, je ne vais pas référer à tel professionnel ou ah oui, moi, je vais référer absolument à seulement ce professionnel-là, je pense que c'est juste de se renseigner. Fait que c'est de garder cette ouverture d'esprit-là. Honnêtement, pour ce qui est des conditions, je reviens avec ça, je sais que je suis un peu tard, neuromusculosquelettique, honnêtement, on est des experts là-dedans. C'est vraiment ça notre champ d'expertise, puis on est des professionnels très adaptés, si on veut, pour en faire le traitement. Puis je pense que on priverait les patients de soins qui sont absolument, comme je disais, sécuritaires, efficaces, si on référait pas justement des patients en chiropratique. Puis moi, je travaille dans un contexte, comme je le disais, interdisciplinaire, où est-ce que la plupart du temps, là, lorsque soit un étudiant en médecine qui va devenir médecin, éventuellement va vouloir référer un patient, parfois vous le savez pas à qui référer. En fait, ça m'étonnait que, parce que moi-même, des fois, je sais pas exactement qui va aider le plus le patient, puis c'est vraiment en creusant, c'est vraiment en faisant vraiment un bon anamnèse, posant toutes les questions, puis après mon examen, que je dis « OK, non, c'est-tu quoi, pour cette condition-là, je pense que je suis pas le mieux placé pour t'aider, ça va être mon collègue à l'autre côté de la porte qui est physiothérapeute spécialisé, disons, en réadaptation vestibulaire, qui va être le mieux placé pour t'aider, tu sais. » Fait que moi, je pense que ce serait de considérer tous les professionnels qui existent, d'apprendre à les connaître personnellement. Tu sais, par exemple, vous avez un chiropraticien de l'autre côté de la rue qui est expert en genoux puis en traitement de genoux, mais pourquoi pas y référer tous vos patients qui ont des problèmes de genoux, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement le titre que porte le professionnel, mais plus qu'est-ce qu'il fait comme traitement, c'est quoi son champ, si on veut, d'intérêt. Puis ça serait vraiment ça, je dirais, le premier, ben, en fait, le conseil principal pour ce qui est des références. Puis deuxièmement, ce serait de toujours garder les intérêts des patients au centre, des préoccupations. Si on l'oublie des fois, là, tu sais, puis des fois, ça va vite, puis nos journées sont occupées, mais c'est de dire, OK, pour ce patient-là, si je mets tous mes billets de côté, parce que moi aussi, j'en ai des billets. En fait, tous les professionnels, tu sais, on gradue, on commence à travailler, puis on a plein de billets, soit envers les autres professionnels ou envers les autres interventions. Ouais. Des fois, là, on se met à lire justement la littérature scientifique, on n'est pas trop sûr de quoi s'en tenir, surtout si c'est quelque chose que nous, on est moins à l'aise. Exactement. Fait que comme je reviens, par exemple, à tout ce qui est les douleurs articulaires, les douleurs physiques, des blessures. Mais nous, on en fait beaucoup. Mais des fois, par exemple, de votre côté, si vous voulez référer un patient, vous ne savez pas exactement à qui, mais je pense que ça serait juste de dire, OK, pour mon patient, peu importe c'est quoi mes biens à moi, qu'est-ce que je sais, à qui je peux référer puis en qui j'ai confiance. C'est surtout ça, en fait. Là.
OK. Bon conseil. Là, on avait plusieurs questions que les auditeurs nous ont envoyées. Les gens avaient beaucoup de questions. Là, la première, est-ce que c'est vrai que c'est mauvais de se craquer les os?
Ça aussi, on l'entend souvent. Ouais. Ça pourrait même faire partie des mythes en chiropratique. Se craquer les os, comme je l'expliquais tout à l'heure, premièrement, on ne craque pas l'os. Donc ça, c'est la première chose à savoir. On libère une bulle de gaz au niveau de l'articulation. Donc ça peut pas être mauvais, de juste ce concept-là. S'il n'y a pas d'autre contexte, juste de dire, OK, il y a une bulle de gaz qui est libérée au niveau de l'articulation parce que je l'ai bougé. Comme je disais tout à l'heure, dès que je me penche, moi, mes genoux, ils craquent. Puis j'espère que c'est pas mauvais, sinon ça irait pas bien pour mes genoux. Ce qui pourrait être mauvais, je vous dirais, c'est lorsque il y a un patient qui tente de faire, par exemple, une intervention thérapeutique, de dire, ah, ben moi-même, je vais me craquer une vertèbre. Sauf que je vais faire une manipulation articulaire au niveau d'une articulation ou d'une vertèbre. Dans le but de m'aider. J'ai mal au cou, je ne sais pas quoi faire, puis moi-même, je vais faire une manipulation au niveau de mon cou. C'est là que ça pourrait être dangereux parce que, premièrement, soit qu'on ne va pas recevoir des soins pour une condition, donc lui, peut-être que le patient ou la personne pense que c'est articulaire, mais que c'est d'autres choses sous-jacentes, potentiellement plus graves, ça, on ne le sait pas. Et puis, deuxièmement, mais c'est que si on le fait, on n'est pas très spécifique non plus. Fait que si, par exemple, au niveau du cou, on a 7 vertèbres, si on tente nous-mêmes de faire une manipulation, une intervention au niveau d'une vertèbre précise, il y a des bonnes chances qu'on ne soit pas capable de le faire nous-mêmes.
C'est déjà difficile de le faire. Écoute, moi, j'ai fait fait ben, 2 ans, là, puis c'était difficile d'être spécifique, là, une vertèbre, c'est tough, là.
Ben exactement, exactement. Donc, c'est pour ça, plus que tu vas voir un professionnel qui est formé, adapté pour ça, puis qui a un grand niveau d'expérience là-dedans, va pouvoir être un petit peu plus spécifique. Puis c'est surtout d'éviter de faire une intervention au niveau d'un segment qui serait déjà hyper mobile ou qui serait normalement mobile. Par exemple, il y a des vertèbres ou une articulation qui bouge déjà bien, puis vous, à répétition, à chaque jour, vous la bougez davantage. Mais à long terme, c'est là qu'il y aurait potentiellement un risque là, d'hyperlaxité ou d'aggraver un problème qui n'en était pas un à la base.
Mm-hmm. OK. Sinon, est-ce que les chiropraticiens, ça c'est plus selon toi, OK, je ne sais pas, mais est-ce que ça a un avenir dans les hôpitaux au Québec?
Ça, c'est vraiment une réponse, puis je vais la dire selon moi. Puis en fait, je ne saurais même pas quoi répondre à cette question-là. C'est une très bonne question. C'est comme je le disais, les chiropraticiens, on est exclusivement ou presque en milieu privé. Je sais qu'il y a un intérêt pour aller dans les hôpitaux, puis non seulement, à part avoir un intérêt, tu sais, de notre part, là, je parle vraiment pour moi, là, c'est vraiment mon ordre professionnel, mon association professionnelle qui vont prendre des directions par rapport à ça, puis qui vont pouvoir faire des démarches ou ne pas en faire. Je pense qu'il y a un intérêt, puis c'est surtout, je pense que ça pourrait être bénéfique pour les patients. Comme je le disais tout à l'heure, bien, pour certaines conditions, le mieux placé va être un ergothérapeute. Puis pour d'autres patients, le mieux placé va être un chiropraticien. Puis des fois, ça va être un physiothérapeute. Fait que je pense que d'avoir toutes ces options-là au niveau d'un milieu hospitalier, ça pourrait définitivement être bon pour les patients. Je sais qu'il y a plusieurs projets de recherche au niveau de chiropraticiens, au niveau des salles d'urgence, par exemple, au Québec. Ça, c'est des projets pilotes. Les résultats là, sont soit à 20 d'être sortis ou ils viennent de sortir. Mais en gros, on se rend compte que nous, de par notre formation clinique, puis par le fait qu'on est des professionnels de premier contact, on a vraiment une formation justement au niveau du diagnostic, puis on est très habilité à évaluer les facteurs de risque, puis s'assurer qu'on pose justement un diagnostic, par exemple, neuromusculo-squelettique. Moi, quand un patient qui vient dans mon bureau, mon premier travail, c'est est-ce que c'est grave ce que tu as? Fait que, par exemple, tu te présentes dans mon bureau avec une lombalgie, les premières questions que je vais poser, puis toute mon attention va être sur est-ce que tu es en train de mourir? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça prend une référence médicale urgente? Tu dois aller à l'urgence, tu sais. Puis dans la plupart des cas, on se rend compte que, par exemple, là, je dis l'exemple d'un mal de dos, mais ça va être juste un problème qui est articulaire, un problème chronique, un problème qui est lié, par exemple, aux occupations du patient, puis ce ne sera pas quelque chose de super grave. Fait que dans ce cas-là, bien, on va pouvoir dire, OK, ce patient-là, on peut l'aider, on va lui prodiguer des soins conservateur de chiropratique puis avoir des super bons résultats. Je pense que ça pourrait grandement diminuer les temps d'attente à l'urgence de par ce fait qu'on peut s'occuper d'une grande majorité des patients. Puis il y a beaucoup de monde qui se présente justement dans nos hôpitaux avec une condition qui ne nécessiterait pas d'aller à l'urgence, si on veut, mais par manque de connaissances ou par manque, en fait, de ressources, exactement. Ils ne savent pas nécessairement où aller. Ils vont aller à l'hôpital, ils vont se faire prendre en charge par un urgentologue à ce moment-là, par exemple, puis alors qu'ils auraient peut-être pu se présenter voir un chiropraticien.
Mais c'est ça aussi, surtout pour l'accessibilité. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer nécessairement puis qu'il y a des assurances pour aller voir un chiropraticien si c'est en milieu privé. On a pas...
Exactement. Donc, d'où le fait qu'on soit dans le milieu intégré au milieu public pourrait potentiellement aider plus de gens. Encore une fois, c'est vraiment juste mon opinion. Puis, tu sais, il faut se dire que tout ce qu'on veut, en fait, c'est le bien-être des patients, puis c'est d'avoir des résultats. Fait que de ce point de vue-là, c'est certain que ça pourrait aider.
L'autre question qu'on a reçue, c'était de où ça sort la rivalité chiro-physio?
Donc, comme je parlais un petit peu tantôt par rapport à c'est quoi la différence entre les deux, ou en fait, c'est quoi surtout les ressemblances, parce qu'on sentait qu'il y a beaucoup plus de ressemblances que de différences, on peut traiter à peu près toutes les mêmes conditions. Ça se ressemble beaucoup. Puis là, bon, il y en a certains que pour telle condition vont être mieux adaptés, ils vont être plus expérimentés que d'autres. Ça peut varier grandement. Je pense que c'est surtout, en fait, si on peut parler de rivalité, ça serait plus dans le milieu privé. Parce que dans le milieu privé, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des cliniques où est-ce qu'on a, par exemple, des employés à payer, il faut faire rouler la clinique. Puis nous, on se dit, bon, bien, moi, je peux traiter toutes ces conditions-là. Tu veux évidemment avoir des patients dans ton bureau, tu veux que les gens te fassent confiance, tu te réfères à leurs amis, leur famille. Fait que la seule rivalité que je peux voir, c'est plus au niveau de faire rouler sa clinique, d'avoir des patients qui viennent te consulter en milieu privé. Mais encore une fois, moi, j'en vois pas du tout de rivalité chiro-physio de par mon contexte de travail. Ouais. Moi, je travaille dans un contexte interdisciplinaire. Ça, il y en a de plus en plus. T'sais, moi, je me lève le matin, je m'en vais prendre mon café avec 5-6 physiothérapeutes. On jase ensemble, on discute de cas avec l'accord des patients, évidemment. Et puis, on est vraiment dans la même équipe. Donc, moi, c'est sûr que j'en vois absolument aucune rivalité chiro-physio. Je pense que ça s'en va de plus en plus comme ça, parce que quand on comprend qu'on est en équipe puis qu'on travaille pour le bien-être du patient, puis quand on se rend compte que le patient est vraiment au centre justement de nos préoccupations, c'est vraiment, on appelle ça patient-centered si on veut, ou des soins qui sont basés sur le patient, mais à ce moment-là, il n'y en a pas vraiment de, mm-hmm. de compétition. T'sais. Mais la seule compétition que je peux voir, c'est que vous avez une douleur à l'épaule, mais vous pouvez aller voir une panoplie de professionnels. Puis c'est sûr que là, la petite rivalité qu'il pourrait avoir, c'est de dire, moi, je veux être la première personne, si on veut, à, mm-hmm. que tu me consultes parce que je veux grossir ma pratique, je veux me faire connaître. Puis au final, c'est d'aider le plus de gens possible. Donc, mm-hmm. C'est vraiment ça. Mais non, rivalité, c'est moi, je suis plus de type peace and love. on est rendu là, en fait.
C'est vrai.
Puis je pense que, ben, exactement. Puis encore une fois, c'est notre génération, mais il n'y en a pas beaucoup de rivalité parce qu'on se rend compte que tout le monde peut aider un mm-hmm. petit peu. Puis c'est d'avoir l'humilité de dire, ben moi, je peux t'aider peut-être à 50%. Puis le collègue de l'autre côté de la rue va peut-être t'aider à 50% aussi. Mm-hmm. Ou en fait, même le passant lui-même, il doit s'aider. Ouais. C'est un petit peu ça.
Donc, ben, tu sais, un peu la prochaine question, c'est parce que ça revient un peu à ça aussi, c'est comme pourquoi les médecins réfèrent souvent plus vers un physio qu'un chiro? Mais tu sais, on l'a dit un peu, tu sais, la méconnaissance justement des certains médecins, c'est pas tous les médecins, encore une fois, mais tu sais, un médecin qui connaît pas justement ce qu'un chiropraticien fait, il en a jamais vraiment, tu sais, jamais discuté avec un chiro, il sait pas trop ce que ça fait, il sait pas trop. Fait que tu sais, c'est sûr que lui, par habitude, s'il réfère vers un physio par méconnaissance, ben
exactement, c'est par méconnaissance. Puis là, on a abordé plusieurs, mais ce qui est pas mauvais, puis on peut pas en vouloir à personne pour ça, tu sais. Comme on l'a dit tout à l'heure, ben, parmi nos mythes, de savoir qu'un chiropraticien traite, par exemple, une douleur au poignet, mais déjà là, le médecin en question pourrait mm-hmm. dire « Ah, ben, je vais référer un chiropraticien. Mm-hmm. Je savais pas ça, je viens de l'apprendre. Mm-hmm. » Moi, mon rêve, c'est, puis encore une fois, je reviens à mon contexte de clinique, mais mon rêve, c'est que, par exemple, dans votre cas, vous êtes mm-hmm. médecin, puis là, vous voulez référer un patient, c'est pas à vous de prendre la décision de dire quel professionnel va être le mieux placé, mm-hmm. à moins que vous soyez vraiment expérimenté puis à l'aise de le faire. Là. Par exemple, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui appelle à ma clinique, mais les personnes qui répondent au téléphone sont formées pour poser certaines mm-hmm. questions, rediriger vers le bon professionnel. Mm-hmm. Puis même s'il se trompe, puis que, par exemple, il y a quelqu'un qui vient me voir pour une consultation, mais que moi, je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour l'aider, je vais immédiatement référer cette personne-là. Puis, je ne vais pas faire des soins inutiles ou je veux vraiment m'assurer que la bonne personne soit vue par le bon professionnel au bon moment pour traiter la bonne condition. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que pourquoi, pour répondre à votre question, c'est pourquoi est-ce qu'on réfère plus souvent en physio qu'en chiro? Peut-être par manque de connaissances, mais mon rêve, ce serait que, par exemple, le médecin en question, ben, il ne se pose pas de questions, il dit « Écoute, je réfère à telle clinique, je sais mm-hmm. qu'il y a autant des professionnels de mm-hmm. tous les champs d'expertise, et puis mon patient, je sais qu'il va être bien pris en charge. » Mm-hmm. Quitte à ce qu'on peut mettre sur le papier de prescription, ben, physio ou chiro, ouais. pourquoi mm-hmm. pas? Et chiro, en fait, mm-hmm. je pense que ce serait plus ça, de référer une équipe de confiance. Ouais. Mm-hmm.
Bon, le salaire, là, c'est tout le temps une question que ça intéresse les gens. Tu sais, réponds comme t'es à l'aise, là, mais à quoi ça ressemble le salaire d'un chiro environ? Puis est-ce qu'il y a une grosse différence entre avoir sa clinique ou, tu sais, travailler pour une clinique?
Oui, c'est la fameuse question qui tue. Honnêtement, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là par le fait qu'on est tous travailleurs autonomes. Mm-hmm. Donc, ton salaire va dépendre presque uniquement de toi, en fait, de combien d'heures tu es prêt à travailler, mm-hmm. de combien de patients est-ce que tu es capable d'aider dans une semaine, puis ben, comme tu disais, est-ce que tu es propriétaire d'une clinique, est-ce que tu vas avoir un rôle de gestion, est-ce que tu vas avoir des responsabilités, évidemment plus de dépenses, ou est-ce que toi tu veux simplement être justement travailleur autonome, travailler avec quelqu'un, avoir moins de responsabilités, moins de dépenses, donner un certain pourcentage ou même un loyer dans le fond de un montant, ouais, exactement, au propriétaire de la clinique, mm-hmm. toi tu fais tes petites choses, donc tout ça c'est possible. Il y a beaucoup de propriétaires de cliniques au Québec. Donc, quand tu es propriétaire, ben, tu vas garder, mettons, 100% du profit mm-hmm. à toi. Par contre, il faut que tu payes le loyer, il mm-hmm. faut que tu payes l'équipement. Tu dois payer, par exemple, tu as des gens qui travaillent avec toi pour t'aider. Tout ce qui est le matériel, en fait, ça coûte de l'argent. Donc, le salaire, à ce moment-là, ça va être ce qui reste. Puis, il y en a aussi beaucoup qui vont décider de travailler à loyer. Fait que ça, c'est, je garde encore une fois 100% de ce qui me revient dans mes poches, mais je dois donner un montant qui est quelques milliers de dollars. En fait, ça peut vraiment varier grandement au propriétaire de la clinique pour dire, je travaille avec toi, tout est fourni. Puis, il y en a d'autres personnes que ça va être, par exemple, je donne un pourcentage. Donc, si je vois personne ce mois-ci, tu sais, par exemple, en début de pratique, des fois, ça peut stresser les gens de dire, hey, ben là, j'aurais pas beaucoup de patients, tu sais, je viens de commencer, je veux pas donner une trop grosse partie de mon argent parce que j'ai besoin de payer mes factures. Ben, de se dire, moi, je donne un certain pourcentage qui est fixe. Fait que si je vois moins de monde, ben, je vais en donner moins. Puis, le mois où tu fais plus d'argent, que tu vois le plus de gens, que tu es capable d'aider davantage de personnes, ben, tu vas donner un pourcentage qui reflète ça aussi à ton employeur. Mais habituellement, c'est quand même des bons salaires, tu sais, puis je sais que ça intéresse des gens. Honnêtement, c'est
crunchy.
Ouais, c'est ça, on rentre dans le crunchy. Puis, en fait, ce qui est le fun, c'est facile en chiropratique d'avoir quand même un bon salaire, mais de travailler des heures qui te conviennent. Donc, tu sais, je connais beaucoup de chiropratiques qui vont travailler 3-4 jours semaine, puis tu peux faire facilement dans les 6 chiffres quand même. Encore une fois, c'est de bâtir un modèle de pratique où tu es capable d'aider le plus de gens possible, où est-ce que les gens te font confiance, qui te réfèrent des patients, que toi, évidemment, tu prodigues des soins de la meilleure, avec des standards d'excellence, exactement, avec les meilleurs standards, et puis que tu travailles le nombre d'heures que tu es prêt à faire. Si tu veux faire plus d'argent, tu peux vraiment travailler 5, 6, 7 jours par semaine. Je ne le conseille pas parce que c'est un travail qui est quand même physique, mais c'est vraiment ça. Puis moi, c'est une des raisons, en fait, qui m'a fait choisir la chiropratique, c'est que je me disais, bon, je vais vraiment pouvoir moduler mon horaire selon mes ambitions à moi. Puis si j'ai envie de travailler plus, parce que je veux vraiment, je suis en mode, je veux vraiment travailler plus, je veux m'investir davantage dans ma patientèle puis dans ma, ma région. Tu sais, moi, je suis dans une nouvelle ville en ce moment, mais j'ai la possibilité de le faire. Tu sais, je ne suis pas régi, je ne suis pas fixé là, dans le béton par un horaire ou par un salaire qui est, mettons, annuel.
OK, parfait. On a eu un petit peu de crunchy. Là. Sinon, en tant que médecin, maintenant moi je suis médecin, là, demain là, je gradue, je m'en vais médecin de famille, puis là j'ai un patient. Mais là, pour quel type de patient je peux référer un chiropraticien?
Dès que tu élimines, dès que tu fais ton travail en fait d'éliminer les drapeaux rouges qu'on appelle les red flags, puis que tu t'assures que c'est pas une condition qui est systémique, qui est métabolique. Donc dès que le patient n'a pas besoin soit d'attention médicale urgente, qu'il n'a pas besoin de médication par exemple pour traiter une condition vasculaire, une condition endocrinienne par exemple, donc dès que ça touche le neuromusculo-squelettique, dès que c'est des soins qui sont conservateurs, qui sont requis, c'est un patient que vous pourriez référer en chiropratique. Donc, comme je le disais, tout ce qui est l'appareil locomoteur, un patient qui vient de tomber, s'est blessé, vous vous assurez qu'il n'y a rien de cassé, ce que ça va y prendre, c'est une bonne réadaptation, peut-être un petit peu de thérapie manuelle, quelques conseils pour aller mieux, mais là, évidemment, le chiropraticien va être un professionnel de premier choix pour ce patient-là. Puis souvent, puis ça, honnêtement, je ne pourrais pas le dire assez, là, tout ce qui est les douleurs chroniques, les lombalgies chroniques, c'est en termes de fardeau, là, c'est une des conditions qui est le plus, qui est le, en fait, qui est la plus grave au niveau du fardeau économique, au niveau du fardeau de le taxe, de santé, le système de santé exactement. Puis on se rend compte qu'une très grande majorité, là, il y a des statistiques qui existent par rapport à ça, mais une très très grande majorité des lombalgies chroniques, par exemple, mais c'est juste un problème qui est dit dans le musculo-squelettique. Donc ça, des chiropraties peuvent avoir un très bel impact par rapport à ça, aider à désengorger le système un petit peu. Fait que c'est de penser à, j'élimine mes drapeaux rouges, est-ce que ce qu'il y a de besoin, c'est au niveau neuromusculo-squelettique? Oui, je peux référer un chiropraticien, c'est pas bien, bien plus compliqué que ça.
Parfait. Puis là, notre dernière question, et non la moindre, qu'on pose sur le temps, c'est, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir chiropraticien?
Absolument, absolument. En fait, c'est vraiment de ne pas se gêner puis de contacter des cliniques de chiropratique. Puis ben là, je te fais un clin d'œil par rapport à ça, Émilie, mais tu sais, nous, dans nos études en chiropratique, lors de notre doctorat en deuxième année, on a des stages obligatoires à faire à l'externe. Puis dans le fond, c'est à nous-mêmes de recruter, si on veut, ou d'aller voir dans des cliniques externes pour dire, hey, j'ai besoin de faire des stages d'observation, voir comment ça se passe dans la pratique et tout. Puis honnêtement, c'est très rare qu'un chiropraticien va vous fermer la porte. Habituellement, on est pas mal friendly, on est très accueillant. Fait que je pense que peu importe la clinique que vous allez contacter dans votre région, ils vont être super contents de vous recevoir. Gênez-vous pas de faire ça. T'sais, ça coûte rien, honnêtement. Ça va vous prendre un avant-midi ou même une journée complète si vous êtes motivé. Puis juste voir c'est quoi le day-to-day, c'est quoi la vie d'un chiropraticien. Sinon, ben, vous pouvez m'écrire pour poser des questions, mais c'est un super beau métier. Puis je fais un peu du pouce à comment on a commencé le podcast tantôt en disant que moi, je savais pas c'était quoi. Fait que je pense que le meilleur conseil à un étudiant qui voudrait venir en chiropratique, c'est garder ses horizons ouverts, de se renseigner sur le sujet. Puis même à des gens en fait qui sont pas certains qui veulent aller dans ce programme-là, qui connaissent peut-être pas ça, de le considérer, ça peut être bien parce que c'est un super beau métier, plein de défis, mais qui est vraiment en fait qui est vraiment enrichissant au final là. Donc
c'est je suis vraiment content de mon choix aussi.
C'est un beau programme difficile, mais c'est un super beau programme. Exactement, ça se donne à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a notre propre pavillon, on est sur notre campus, on est super bien traité là-bas, on a tout l'équipement qu'on a de besoin, on a une clinique universitaire qui est intégrée à l'université. Donc au niveau de la vie étudiante aussi là, ça peut être intéressant. Il y a vraiment une belle vie étudiante au niveau du programme de doctorat en chiropratique. Donc c'est ça que je le recommande à tout le monde.
Ben merci, Daniquelle.
Merci beaucoup.
Ah, il a fait la route ce matin pour venir ici. J'étais vraiment contente. Fait que parce que t'es quand même à Vaudreuil, c'est ça?
Ben exactement, mais en pleine tempête de neige. Ouais. Là, je m'étais coupé la route. Là, j'avais dormi à Trois-Rivières hier pour couper un petit peu la route. Et dans cette tempête de neige, tu sais, pour le contexte, on est quand même en avril.
Assez tard.
Ben exactement. Ouais. Au moins, j'avais encore mes pneus d'hiver.
Par chance.
Mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler ce matin. Puis merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Beaucoup. Bonne continuité.
Merci.
Bye.